Radio Kapi. Oh, Kapi.
Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Okapi. 24 ans après la disparition de Laurent Désiré Kabila, la jeunesse congolaise se souvient encore de cet homme modèle et qui a institué des réformes courageuses à Kinshasa lors d'une journée porte ouverte ce jeudi. De nombreux jeunes ont visité le bureau présidentiel où était assassiné Laurent Désiré Kabila. Certains d'entre eux voulaient comprendre la vie et l'idéologie de ce grand homme qui avait la passion et l'amour de la patrie. Le rebelle du M23 accusé d'actes de représailles sur les populations civiles à Kiondo, dans les territoires de Rutshuru. 7 civils ont été tués et 5 autres grièvement blessés lors des tirs engagés par les rebelles. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur du Nord Kivu, dont la chefferie de Bwito, appelle à une intervention de l'armée. Isaac Ongoy, l'un des membres de la fondation Laurent Désiré Kabila et guide de la journée porte ouverte, est l'invité de ce journal. Il revient sur les leçons à tirer du combat de Laurent Désiré Kabila. C'est tout pour le titre. Janvier 2001, 16 janvier 2025, cela fait 24 ans qu'était assassiné le président Laurent Désiré Kabila, affectueusement appelé Mouzé. C'est jeudi, une journée porte ouverte a été organisée au palais de marbre où Laurent Désiré Kabila avait érigé le bureau présidentiel. Un reportage de Nassim Tambo, Ben Sokouda et Freddy Bikumbi.
Nous sommes ici au palais de marbre où a été assassiné Mouzé Laurent Désiré Kabila par l'un de ses gardes du corps à cette journée du 7 janvier. Des photos et grandes affiches sont placardées pour montrer les actions et souvenirs sur la vie du deuxième héros national de la RDC. Par groupe de 50 personnes minimum, les services du protocole les conduit jusque dans le bureau de feu Laurent Kabila où Isaac Ngoï, membre de la fondation Mouzé Kabila, s'adonne à l'exercice d'expliquer comment Kabila a été tué pendant qu'il était en train de travailler. Mais que retenir de cette visite guidée au palais de marbre? Écoutez ce que racontent quelques visiteurs.
J'ai vu ses habits avec sa chaise, qu'il était assis, avec sa lunette, avec ses documents.
C'est quelqu'un qui était de son milieu, qui l'a reçu. Et après la scène de travail, il dira aux autres, attendez, le président voudrait un peu se reposer, en étant le sang coulé.
Pour cette année 2025, dans la cour du palais de marbre, ici à Kinshasa, une forte présence de jeunes gens, surtout des enfants, est remarquable. Pour certains d'entre eux, ils sont venus pour découvrir et vouloir comprendre la vie, l'idéologie de Mouzé Kabila. Au sortir du palais de marbre, plusieurs visiteurs nous ont affirmé retenir la recommandation fétiche de Mouzé Kabila, ne jamais trahir le Congo.
Par ailleurs, la famille biologique, les compagnons des luttes du président Laurent Désiré Kabila, ainsi que le regroupement, le Front commun pour le Congo, FCC, ont commémoré les 24e anniversaire de l'assassinat du héros national à la cathédrale protestante de Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Parlons sécurité à présent. Au Nord Kivu, les habitants du village de Kiondo, dans le groupement du même nom, territoire de Rutshuru, vivent dans la peur depuis mercredi soir. Certains restent enfermés chez eux, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans la forêt. Des sources locales indiquent qu'après leur défaite au front face aux forces armées de la RDC, le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, ont fait irruption dans la localité de Kiondo, tirant de manière inconsidérée. On déplore 7 civils tués et 5 autres grièvement blessés. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur du Nord Kivu, dont la chefferie de Bwito, appelle à une intervention de l'armée nationale. Écoutons Isaac Kibira.
À Kihondo, chef-lieu du groupement Kihondo, les M23 sont tombés dans l'embuscade tendue par les Wazalendo. Beaucoup d'eux ont perdu la vie. Alors, vers 17h30, les M23 ont tiré sur 7 civils qui ont perdu la vie et plus de 5 blessés. Parmi eux, il y a 3 mamans et parmi les morts aussi, il y a un enfant. Alors la population s'enterrait dans les maisons et les autres se cachaient dans la brousse. En tout cas, la situation devient compliquée. Les M23 n'ont pas une mobilité paisible. C'est toujours des embuscades, tandis ça et là par les Wazalendo qui contrôlent la grande partie aussi des alentours de Nyanzale, Katsiru, un peu partout. Et les M23 restent enterrés toujours dans leurs trous de fusiliers. Et les Wazalendo causent des morts au M23 et c'est là les M23 se déchargent aux populations civiles. Et nous demandons au gouvernement d'user tous les moyens pour chasser les M23, sinon avec la présence des M23, la population risquerait d'être exterminée.
Toujours en lien avec la guerre dans l'est de la RDC, les États-Unis condamnent la présence illégale de plusieurs milliers de soldats rwandais en RDC et expriment leur soutien au rapport mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies sur l'est de la RDC selon le communiqué du département d'État des États-Unis publié ce mercredi 15 janvier. Les États-Unis déplorent également l'utilisation par le Rwanda de systèmes de missiles sol-air et exigent qu'il cesse ses activités sur le sol congolais. Le point avec Grace Amuzati.
Les États-Unis dénoncent la présence illégale des milliers de soldats rwandais en RDC ainsi que le soutien et la direction par le Rwanda de la milice M23 sanctionnée par l'ONU et les États-Unis et l'utilisation par le Rwanda des systèmes de missiles solaires, des mortiers guidés par GPS et des missiles anti-chars. Le Rwanda et le M23 doivent immédiatement cesser leurs activités de brouillage GPS et d'usurpation d'identité qui continuent d'empêcher les opérations aériennes de la MONUSCO et les vols humanitaires de l'ONU dans le Nord Kivu, indique le communiqué du département d'État des États-Unis. Ces actions mettent en danger le personnel de l'ONU et des organisations humanitaires, tout en bloquant l'aide nécessaire aux civils souffrant des violences, poursuit le communiqué. Les États-Unis condamnent également ce que le rapport décrit comme une coopération systématique et continue des forces armées de la RDC avec le groupe armé des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, sanctionné par les États-Unis et l'ONU. Nous exhortons vivement les autorités congolaises à veiller à ce que cette coopération cesse immédiatement et nous nous félicitons de l'engagement du gouvernement de la RDC à collaborer avec la MONUSCO pour exécuter le plan de neutralisation des FDLR dans le plein respect du droit international humanitaire et des droits de la personne, peut-on lire dans ces documents. De plus, il n'y a pas de chemin vers la paix sans dialogue entre les gouvernements de la RDC et les groupes armés, y compris le M23, conclut ce communiqué.
Dans la province de la Tchopo, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, s'inquiètent de la persistance du conflit intercommunautaire. Les membres de la communauté Mbolé et ceux de Lingola se livrent aux violations des droits de l'homme, faisant des victimes de part et d'autre. On estime à 107 000 personnes vivant dans des sites des déplacés à la suite de ces conflits. Le récit de fait avec Michel Kifindangoy.
La cohabitation pacifique entre les membres de la communauté Mbolé et Lingola est loin d'être observé. Dans un communiqué, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme démontre que ce conflit intercommunautaire pèse sur la stabilité de la province de la Tchopo. Le BCNUDH fait état d'au moins 303 civils victimes de violences des droits de l'homme depuis le début de ce conflit en février 2023. Plus de 107 000 personnes sont déplacées et vivent dans des conditions précaires à Kisangani et dans la commune de Lubunga. Deux ans après le déclenchement de ces conflits intercommunautaires, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dit avoir enregistré des exécutions sommaires, des traitements cruels, ainsi que des enlèvements et pillages systématiques des biens des habitants. À l'origine de cette crise, un litige foncier portant sur un désaccord autour d'une concession de 4000 hectares octroyée à la société agropastorale Cap Congo dans la commune de Lubunga. Une cérémonie coutumière de réconciliation est prévu en date du 27 janvier prochain dans la localité d'Ossio. Le BCNUDH invite le gouvernement congolais à s'attaquer aux causes profondes de ces conflits en vue de mettre fin aux tensions ethniques entre ces deux communautés, Mbolé et Lingola.
Dans la province du Maniema, le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme séjourne à Kindu depuis le mardi dernier. Dans le Maniema, le général Prosper Katumbai Bulongo va procéder à l'implantation et le déploiement des experts de sa structure dans toute la province pour l'opération du désarmement. Le général Katumbai s'est exprimé ainsi après son audience avec le gouverneur de province. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Ma mission a un double volet. Il y a le volet sécuritaire que je viens de faire part uniquement au gouverneur de province qui représente le chef de l'État dans sa province. Le deuxième volet concerne l'implantation et le déploiement des experts de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme à travers la province du Maniema. Pour votre information, c'est la 8e province que je visite pour cette implantation. Vous êtes tous sans le savoir que nous sommes agressés. Nous sommes un pays en état de guerre. Et selon cette situation, nous avons cette commission qui va aider le gouvernement à arrêter, à peaufiner, à mettre en œuvre le programme du désarmement. C'est-à-dire récupérer toutes les armes qui se trouvent illégalement entre les mains des gens qui n'ont pas le droit de posséder une arme. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis aussi à ma disposition les experts formés de la police nationale qui vont faire partie des experts et qui vont accompagner les experts civils dans le désarmement.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Parlons économie à présent. Le ministère de l'économie nationale a mis en œuvre l'application Talo le mercredi 15 janvier dans la ville province de Kinshasa, dans le souci de suivre l'évolution des prix sur le marché et de lutter contre la spéculation. Cette initiative est une réponse efficace pour redynamiser le service de contrôle économique en RDC. Pour sa phase pilote, l'application Talo a été expérimentée dans deux marchés de la capitale, notamment au marché de la Liberté dans la commune de Massina et celui de Gambela situé dans la commune de Kasavubu. Des détails dans ce reportage de Blaise Makassi rendu par Blaise Shindani Kambala.
L'application Talo promet de réduire considérablement les délais liés à la collecte et à l'analyse des données. Les méthodes traditionnelles posaient de nombreux problèmes, dont les difficultés d'équipement. Des agents de la division urbaine de l'économie, du secrétariat et du cabinet du ministre sont déployés sur le terrain pour cette première étape. Selon Léon Binyangimikoulé, chef de division urbaine de l'économie à Kinshasa Ouest, avec l'application Talo, le ministère de l'économie a désormais un accès instantané aux informations sur l'évolution des prix.
Un agent de l'économie se pointe devant le tableau de vos prix, il y prélève par son téléphone et renvoie au système. Ça va nous permettre de bien suivre, ce n'est pas un contrôle économique.
L'objectif de cette application est clair, selon le ministère de l'économie, permettre un suivi transparent des prix de vente de produits sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'économie, à travers Talo, répond à un besoin urgent de modernisation des méthodes de surveillance du marché en République démocratique du Congo. Cette nouvelle approche est considérée comme une avancée majeure pour garantir la transparence sur le marché tout en facilitant le travail des agences économiques. Cette dernière interface permettra aux entreprises de soumettre directement des informations concernant leurs stocks, prix et structures tarifaires en conformité avec la législation en vigueur.
La mairie de Kalemie, dans la province du Tanganyika, a incinéré hier mercredi plus de 6000 petites bouteilles de 35 et 45 millilitres contenant des boissons fortement alcoolisées. Cet important lot a été saisi par le service de renseignement et de sécurité au port de Kalemie. D'après l'adjoint au maire de Kalemie, cette opération vise à lutter contre le banditisme urbain causé parfois par des jeunes qui consomment ces boissons alcoolisées et commettent des actes criminels. On écoute Karine Muteta dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Récemment, le maire de la ville a signé un arrêté pour interdire la vente de la dite boisson. Le maire a procédé avec les différents services, l'ANR, la DGM, la police et autres. Et ils effectuent même des missions au port de Kalemie pour aller fouiller les bateaux qui amènent cette boisson. Et comme vous venez de constater, on a y attrapé le premier lot qu'on vient déjà d'incinérer. Et donc nous appelons la population de Kalemie à ne pas consommer cette boisson qui est en train de nous tuer. Donc cette boisson que nos jeunes, que nos frères, nos enfants sont en train de consommer, nous sommes les premiers à décrier l'insécurité qui se pose dans la ville. Tout ça, ça provient de cet alcool qui amène les conséquences. Quand quelqu'un est ivre, il fait de n'importe quoi. C'est pourquoi nous demandons encore au même service de continuer avec cette opération. Par rapport aux revendeurs, nous les appelons à observer la mesure prise par le maire de la ville. Ils peuvent s'entêter aujourd'hui et demain, ils vont en pâtir parce que c'est leur argent. Ils peuvent changer les commerces.
L'actualité, c'est aussi le lancement de travaux de lutte anti-érosive dans la ville de Kenge, dans la province du Kwango. Des collecteurs longs de 950 mètres et des caniveaux de 650 mètres sont en train d'être construits, notamment au quartier Epom. C'est pour lutter contre l'érosion portant le même nom qui menace plusieurs infrastructures. Cela vise à freiner la progression de cette érosion et à protéger les zones à risque. À Kenge, plusieurs ménages ont été déplacés et des maisons emportées par les érosions. Le gouverneur Willy Bitwisila parle d'un défi énorme face aux importants dégâts matériels causés par le ravin. Irène Mboma, Luzolo.
Ces travaux de lutte contre les érosions qui mettent en péril plusieurs infrastructures et habitations à Kenge sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD. Les dix travaux qui doivent durer 4 mois consistent notamment à construire un collecteur de 950 mètres de longueur, 1,67 m de largeur et de 1,90 m de hauteur, ainsi qu'un caniveau de 650 mètres de longueur, 0,80 m de largeur et de 1,08 m de hauteur. Pour les gouverneurs de la province du Kwango, la lutte anti-érosive à Kenge est un défi majeur et une priorité au regard des dégâts importants que causent ces ravins. Willy Bitwisila.
La ville de Kenge est fortement menacée par les érosions. Ces érosions causent déjà beaucoup de tort à cette ville. Il y a des familles déplacées de leur résidence. Il y a des familles qui ont perdu leur maison et pour cela, lutter contre les érosions dans cette ville de Kenge et aussi dans d'autres localités du Kwango est un grand défi.
Signalons que la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, compte à ce jour une vingtaine de têtes d'érosion actives et très menaçantes. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Royaume-Uni annonce des enquêtes locales sur des affaires de viol et d'exploitation sexuelle survenues entre 1990 et 2010. La ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, a indiqué devant les députés qu'un plan de 10 millions de livres, 11,8 millions d'euros seront dédiés à ces enquêtes locales portant sur ces gangs responsables des viols et d'exploitation sexuelle des filles et jeunes filles. La gestion de plusieurs affaires entre la fin des années 1990 et le début des années 2010 par les autorités britanniques a récemment suscité des virulentes critiques d'Elon Musk sur X.
L'invité.
Il y a 24 ans, jour pour jour, que l'héros national Musée Laurent-Désiré Kabila était assassiné à Kinshasa. Pour commémorer cette journée, la Fondation Musée Kabila a organisé ce jeudi 16 janvier une journée porte ouverte au Palais de Marbre, à l'endroit où il a été assassiné. Cette activité a permis à de nombreux parents d'émener leurs enfants pour qu'ils s'imprègnent de la lutte pour la libération de la RDC menée par Laurent-Désiré Kabila. En plus de cette aspect, Isaac Kongoy, l'un des membres de cette fondation et guide de cette journée porte ouverte, a décrit Musée Laurent-Désiré Kabila comme un véritable nationaliste. Isaac Kongoy s'entretient avec Ronelli Ntumbonela.
Monsieur Isaac Kongoy, bonjour.
Bonjour, merci.
Une journée porte ouverte en faveur de la population congolaise en cette journée, pourquoi?
Oui, c'est une journée porte ouverte parce que c'est une journée de méditation, car tout Congolais doit savoir que la RDC ne compte que des héros nationaux. Entre autres, Musée Laurent-Désiré Kabila, que nous commémorons aujourd'hui, et demain, ce sera Patrice Emery Lumumba.
Alors, parlons de Musée Laurent-Désiré Kabila. Qu'est-ce que la nation congolaise peut retenir de sa lutte?
Oui, de sa lutte, d'abord, un, c'est le nationalisme et le patriotisme. C'est-à-dire, la RDC, tout Congolais doit aimer d'abord son pays, doit aimer son pays avant d'aimer celui qui gouverne. Deuxièmement, c'est de savoir se prendre en charge. Et troisièmement, de ne jamais trahir le Congo.
Cette commémoration intervient dans un contexte difficile marqué par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Des enfants associés à cette activité, c'est pour une raison quelconque?
Oui, des enfants qui sont associés à cette activité, c'est pour pérenniser bien sûr l'idéologie de nos héros nationaux qui ont impacté notre nation à travers les œuvres qu'ils ont accomplies. C'est pour cela qu'on les appelle héros nationaux. Et les générations futures doivent connaître cela afin que ça puisse être transmis aux générations aussi à venir.
1997, Mousin Laurent Désiré Kabila prend l'initiative de libérer le pays. Il y a également des critiques. Est-ce que vous endossez ces critiques?
Non, pour ces critiques-là, chacun a sa façon de faire. Car des personnes qui ont vécu ici et qui ont vécu avant nous connaissent les réalités que subissait notre pays à l'époque. Des réalités, sans pour autant dire dictatoriales, des réalités de géopolitique ou des réalités où des personnes, pour se retrouver, devaient appartenir à une certaine catégorie. Donc, Mousin est venu bannir cela. Il a rassemblé tout le monde. C'était un nationalisme. Tout le monde a œuvré pour le salut du Congo avec Mousin.
Alors, 3 ans de gestion. Qu'est-ce qu'il a fait dans les 3 ans, s'il faut résumer son action?
D'abord, Mousin a lutté pour l'indépendance économique. Rappelez-vous que 1 dollar valait 1 franc congolais. Chose que les puissances occidentales ont mal digérée. Parce que une monnaie africaine avait la même valeur qu'une monnaie mondiale, une monnaie internationale, le dollar. C'est un exploit que Mousin a fait qu'on peut retenir.
Et sur le plan agricole, est-ce qu'il y a des réformes qui ont été...
Oui, sur le plan agricole, rappelez-vous de la réserve stratégique qu'il avait créée, le CPP, ainsi que différentes structures que Mousin avait créées, et les différentes routes de dessertes agricoles qui étaient mises en œuvre. Donc Mousin a plus œuvré d'abord pour ce qui est produit à l'intérieur du pays, puis arriver dans de grandes villes. D'abord en améliorant les routes de dessertes agricoles.
Est-ce que c'est un manque à gagner pour nous de perdre Mousin Laurent Désiré Kabila 3 ans juste après sa prise de pouvoir?
Oui, c'était un manque à gagner car notre pays commençait à décoller. Malheureusement, le décollage a été arrêté très précocement.
Beaucoup de jeunes qui sont engagés dans plusieurs combats au Nord que vous. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la jeunesse congolaise par rapport à ce qui se vit aujourd'hui au pays?
Vraiment, nous compatissons d'abord pour la jeunesse congolaise qui se trouve de l'autre côté de notre pays. Ce n'est pas facile de vivre ces atrocités, de tenir bon et d'accompagner surtout nos forces de l'ordre, le FARDC. Il doit accompagner le FARDC ainsi que dénoncer là où il faut dénoncer. C'est ce que le jeune doit faire de l'autre côté.
Dernier message de la Fondation Mousin Laurent Désiré Kabila.
Le dernier message, c'est surtout d'aimer le pays, de ne jamais trahir le pays et de pérenniser les idéologies pures et saines pour l'avancement de notre pays.
Nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Isaac Kongoy, membre de la Fondation Mousin Laurent Désiré Kabila, s'entretenait avec Ronéline Timbonera. Ainsi s'achève ce journal, mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Alain Hirung l'a supervisé, une présentation de Gisèle Cage. Merci pour votre fidélité à Radio Capi. Excellente soirée à tous.